Radio Cité Genève.
Cité Culture. Épiphanie Monfou.
Bonjour à toutes et à tous. Si vous nous prenez en cours de diffusion, nous sommes avec Frédéric Paul Baudet, commissaire de cette exposition Liberté conditionnelle au Musée Ariana jusqu'au 2 mars prochain. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Nous poursuivons donc notre visite à décrire les œuvres de cette exposition. Et là, cette fois-ci, nous entrons dans cette deuxième salle. Alors, qu'est-ce que nous voyons, Frédéric Paul Baudet ?
Alors, dans cette deuxième salle, il y a encore trois grands podiums, plus des étagères et des scellettes au mur. Il y a, sur le grand podium de gauche, un thème consacré au dialogue forme-couleur. La collection est très riche dans ses aspects techniques et elle est très vive aussi. Il y a souvent des pièces très joyeuses, très fortes en couleurs. C'est aussi une caractéristique peut-être de la céramique contemporaine, de jouer beaucoup sur le jeu des couleurs. Et on a imaginé un podium qui rassemble des pièces assez éclectiques, mais qui sont très marquées par la couleur et le jeu des couleurs. Je vous parlais la dernière fois d'une pièce de Monica Gigisberg et Philippe Baldwin, deux verriers très fameux. Et là, vous avez, pour commencer ce podium, cette très récente acquisition qui s'appelle Monolithe Humain, Monolithi Humani, qui date de 2022, et qui est une forme double, puisque ce sont comme deux vases dont les encolures s'assemblent l'une dans l'autre pour créer une forme de culbuto, un petit peu, dans un verre satiné absolument magnifique, tout ça soufflé à la main. Et c'est une très belle pièce qui a été exposée au musée de Romont, où ce couple a eu une rétrospective en 2022. Et ce sont des artistes qui sont régulièrement achetés par le musée Ariana à différents moments de leur carrière. Il y a d'autres artistes plus jeunes, comme ce coréen Sang-woo Kim, qui est un coréen mais qui vit en France maintenant, et qui a une technique tout à fait extraordinaire de terre teintée dans la masse, et aussi un peu comme un aériage. Ce sont des pièces très polies, longuement polies, très douces, et avec des couleurs très intenses, tout à fait magnifiques. J'aime beaucoup aussi cette coupe et ce vase.
On se rapproche.
D'une artiste allemande, Elke Sada, qui est à la fois céramiste et peintre. Et là aussi, les techniques d'élaboration sont très sophistiquées, je dirais.
Absolument, absolument.
Et notamment pour cette coupe, parce que ce n'est pas une coupe peinte, comme on pourrait l'imaginer, enfin, simplement la couleur posée directement sur la céramique. En fait, la couleur est ancrée dans du plâtre. Le plâtre aspire la couleur et ensuite c'est comme un report, comme de l'eau forte en fait. La céramique va recouvrir les bandes de plâtre colorées et c'est donc une empreinte.
Et on retrouve plusieurs couleurs, il n'y a pas qu'une seule.
Il n'y en a pas qu'une seule, non, il y a couleur et graphisme.
Du bleu, du vert, du rose, du jaune, orange.
Tout à fait, c'est un transfert de barbotine colorée. Il y a également des installations. Alors, les installations, ce sont des éléments qui viennent s'agglomérer entre eux pour former une sorte de paysage de table. Et ce paysage de podium est signé de Philippe Godridge, qui est un artiste français très très passionnant parce qu'il a une grande influence sur la céramique française actuelle. Et c'est pas du tout un céramiste urbain, c'est un céramiste qui vit à la campagne et qui est agriculteur. Donc il fait de l'élevage, il cultive et il utilise la terre de son jardin, la terre qui est autour de lui, donc une terre, une glèbe je dirais, enfin pas une terre raffinée achetée chez un industriel. Il a une façon de travailler très sensuelle, très sensible. Il ne s'occupe pas de créer de l'harmonie, de la beauté, il s'intéresse au paysage d'une manière générale. Ce sont des pièces très modelées, très nerveuses parfois, et il aime bien quand les peaux éructent, comme il dit. J'aime bien que mes peaux éructent. Et là, il ne s'agit pas tellement de peaux, mais plutôt de montagnes encore, de montagnes, de maisons, et de briques émaillées, dans des couleurs très très variées, des couleurs qui sont aussi des couleurs de céramique traditionnelle, plutôt de céramique du sud, voire d'Afrique du Nord, des verts, des jaunes, des rouges, des noirs. Tous ces modelages, toutes ces petites maisons, toutes ces petites montagnes Et ces briques constituent sa vision du bocage normand, puisqu'il vit en Normandie.
Nous continuons toujours la visite de cette exposition. On aborde les différents thèmes et nous décrivions les objets, les œuvres qui entrent en, on va dire, en dialogue avec ces différents thèmes, n'est-ce pas ?
Oui, alors il y a d'autres thèmes, évidemment. On parlait de la montagne dans la première salle, qui est un thème effectivement très frappant dans cette collection, parce qu'il y a de nombreuses évocations de la montagne, mais il y a aussi de nombreuses figures humaines. Des sculptures qui parlent du corps, qui montrent le corps, qui sont souvent des sculptures assez narratives. Et la figure humaine intéresse beaucoup Anne-Claire Schumacher, Isabelle Neff. Et elle est aussi très symptomatique d'une sculpture céramique qui est très introspective et où les artistes se racontent par et dans la terre. Et parfois, ce sont des autoportraits, parfois, ce sont des carnets de bord, des visions de ce qui les entoure. Et la figure humaine est très prépondérante. Et on a marqué ce thème sur cette étagère longue, là, ici. Mais il n'est pas seulement cantonné sur cette longue étagère. On retrouve des figures un petit peu partout, sur les salettes, dans une autre thématique qui s'appelle transfiguration. Alors là, il s'agit de figures, je dirais, mystiques, qui nous montrent la fragilité de l'humain et aussi ses aspirations vers un au-delà, vers une transcendance. Et il y a eu à deux reprises des expositions qui ont vraiment été très fortes, évoquant cette question de la transcendance et de l'humanisme. Une exposition de Johan Taon, un artiste belge, un sculpteur avec un grand S, c'était vraiment un sculpteur dans la suite des grands sculpteurs du XXe siècle, comme Rodin, qui vit dans son atelier à longueur de temps, qui a une expertise du moulage, du modelage, et qui fait des grandes figures mystiques comme ça, très imprégnées du religieux, sans religion très définie, mais en tout cas d'une force de l'esprit. Et il y a eu une exposition magnifique en 2019, si je me souviens bien, qui s'appelait Refuge Silence. Et le musée a acheté une très grande figure, une des plus grandes figures de l'exposition, qui est un moine glaciaire monk, là qui lui fait bien 1m60, je pense, de haut. Et comme il est monté sur un podium, là on atteint à peu près 2,50 m. C'est la pièce la plus monumentale de l'exposition. Il y a d'autres pièces sur des scellettes qui sont aussi inspirées par cet humanisme et cette force de l'esprit. Je pense à Audrius Janusonis, qui est un artiste lituanien dont le musée a fait la première exposition personnelle dans un musée. Donc ils ont vraiment soutenu le début de carrière de cet homme dont l'œuvre est inclassable, extrêmement émouvante, et c'était un très beau rendez-vous, et voilà, là, l'audace qu'un musée peut avoir, et le lien qu'il peut entretenir avec un artiste pour le soutenir et pour faire connaître son travail, le faire découvrir.
Comme autre thème, on a par exemple en face de nous, feu sacré.
Alors feu sacré, là aussi c'est assez spirituel, mais ce sont des pièces cuites au bois. La cuisson au bois, qui est une cuisson ancestrale, hein, extrêmement ancienne au Japon, en Chine, a un retour en grâce au XXe siècle important, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Europe. De nombreux artistes cuisent dans des fours gigantesques, des fours Nomborigama ou Anagama, qui sont des fours à plusieurs chambres, construits en torchis, en briques, et dans lequel on peut rentrer, et où les pièces cuisent en pleine flamme, donc sont léchées par la flamme. Donc ça crée des effets de couleurs et de le matériau est brut. Et donc voilà, j'ai rassemblé plusieurs pièces qui sont dans cet esprit-là, et qui renouvellent une tradition très très ancienne. Évidemment, il y a quelque chose de sacré dans cette attente de la cuisson, parce que les cuissons sont très longues, elles durent une semaine, et avec le refroidissement une autre semaine. Il faut entretenir le bois toute la nuit, tout le temps, en se relayant. Donc il y a quelque chose d'un rituel qui contribue à rassembler la communauté céramique, enfin une certaine communauté céramique qui s'intéresse à cette cuisson, à ce type de cuisson. Il y en a beaucoup en France, il y en a aussi en Suisse, aux États-Unis également. Donc ce sont des expressions très telluriques qui ne cachent rien où la terre n'est plus cachée. Elle est au plus proche de la couleur du sol et de la nature du monde, quoi.
Cette exposition, Liberté conditionnelle, est-elle un dialogue entre les œuvres nouvellement acquises et celles de la collection déjà existante, ou tout simplement il s'agit d'une confrontation, ou alors dialogue ou confrontation entre les différentes œuvres de cette collection nouvellement acquise?
Alors là, comme c'est une exposition contemporaine, il n'y a que des pièces contemporaines qui conversent entre elles, et c'est le fait des ensembles. Justement, nous avons créé des thématiques et des ensembles de pièces qui font qu'elles ont une certaine complicité formelle, esthétique, technique, pour montrer justement la force d'anticipation, le rôle que peut avoir une œuvre pour compléter une collection. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que les conservatrices achètent ces œuvres en pensant aussi aux collections anciennes, et qu'elles aiment faire des liens dans les collections permanentes, entre une pièce ancienne et une pièce contemporaine. Elles le font habituellement, si vous circulez dans le musée, vous verrez de temps en temps des passages de temps comme ça, de pièces confrontées l'une à l'autre comme ça.
Et vous avez trouvé des liens surprenants, vous avez observé?
Oh ben oui, dans la salle bleu et blanc, nous avons enlevé de la salle bleu et blanc temporairement une pièce de Christian Rosenbach, qui est une potiche chinoise, récupérer une potiche de collection dans lequel il a injecté une fonte d'aluminium, et ce métal chaud et va faire éclater la porcelaine, mais en même temps, comme c'est une action très rapide, va maintenir la porcelaine d'une certaine manière. Donc c'est une potiche qui a explosé mais qui est maintenue par la masse de fonte d'aluminium qui est à l'intérieur. Et cette pièce là elle était il y a encore peu de temps dans les collections bleu et blanc, dans la salle consacrée au bleu et blanc. Oui, il y aurait de nombreuses pièces qu'on pourrait commenter aussi qui ont un lien avec l'histoire, que les artistes citent volontairement d'ailleurs, hein. Beaucoup d'artistes travaillent sur l'histoire. Il y a également, par exemple, dans la première salle, le thème réinterprétation explosive.
On pourra y aller pour en même temps terminer notre reportage gentiment. On a commencé par la première salle. Eh bien, on va finir par celle-ci, donc la première salle.
Il y a dans cette première salle, sous l'intitulé réinterprétation explosive, une pièce sous cloche qui est une sculpture bouddhique, un guanyin, mais qui est complètement explosé lui aussi. Ce sont des tessons, enfin, ce sont des fragments qui n'appartiennent pas d'ailleurs forcément à la sculpture en question, qui peuvent être des éléments rapportés de bols, c'est de la porcelaine. Cet artiste est très particulier parce qu'il n'est pas vraiment céramiste, il est restaurateur de céramique, restaurateur, installateur, il crée des structures. Et il arrive à recomposer des figures à partir de tessons de céramique, de tessons de porcelaine en l'occurrence.
Et là, qu'est-ce que nous voyons?
Alors là, nous voyons une sorte de divinité qui est constituée de fragments qui n'appartenaient pas à la sculpture d'origine, qui viennent de différentes époques, même sans doute, c'est un mélange. Donc c'est une pièce très éclectique, c'est comme si le vent était passé à travers la pièce et elle tient comme par miracle. Et là, c'est une référence à l'histoire, évidemment, c'est une référence à la beauté de la porcelaine chinoise, à l'ancienneté de la porcelaine, à ce côté mythique qu'a la porcelaine chinoise et fondateur aussi de l'histoire de la céramique, et puis aussi à la fragilité de ce matériau, à son histoire sans cesse recommencée, et à l'intérêt qu'ont les contemporains de repartir sur les traces de pièces anciennes. Il y en aurait plein d'autres que je pourrais vous commenter dans cet esprit-là. C'est une des lignes très marquantes de cette collection, justement, ce rapport à l'histoire. Et je trouve que les achats sont engagés. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les musées, j'en sais quelque chose, parce que j'ai été responsable de collection. Et là, je trouve que ce musée suit l'actualité. Donc, ils arrivent à avoir une réactivité dans le temps de la création. Il y a des pièces vraiment qui ont été réalisées il y a un an, deux ans, pas beaucoup plus. Donc c'est assez fort. Dans des musées qui sont peut-être moins spécialisés en céramique, qui sont plus comme des musées d'art décoratif, comme à Paris, où il y a plusieurs domaines, on ne suit pas avec autant d'acuité et de continuité le domaine céramique en question. Donc là, je trouve qu'il y a un dynamisme. Et il y a aussi la question de que ce musée, en son sein, reçoit l'Académie internationale de céramique, qui est une association qui réunit des conservateurs, des artistes, des acteurs de la céramique mondiale. Et tout ça maintient effectivement une information constante sur le monde céramique d'aujourd'hui. Donc c'est un musée très favorisé, avec une collection forte, je trouve, vraiment.
Je vous dis merci Frédéric Paul Baudet, commissaire de l'exposition Liberté conditionnelle, c'est à voir au musée Ariana jusqu'au 2 mars prochain, donc 2 mars 2025. Nous avons parcouru les deux salles de cette exposition en deux émissions. Merci et belle suite de journée à toutes et à tous à l'écoute de notre antenne Radio Cité Genève 92.2 FM. Cette émission ainsi que les autres sont à retrouver sur le site de la radio, radiocité.ch. À tout bientôt.